Porter du fruit, c'est fabriquer. Porter du fruit, c'est engendrer. Donc, on ne peut pas engendrer, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas amener à l'existence si on n'a pas envie de le faire. Et on porte du fruit quand on sait quel est le fruit qu'on est censé porter. Maintenant, entre la connaissance de la vocation et la vocation proprement dite, il y a toujours une période de formation. Et quand Dieu a fini de te former, sache que lorsque Dieu te dit « Je veux que tu portes du fruit », ça veut dire que la vocation qui est la tienne, la chose pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle je t'ai suscité, c'est ça. Mais pour moi, le fruit qui demeure, c'est ta vocation, c'est-à-dire ta capacité à amener la pensée, l'objectif que j'ai mis dans ta vie à matérialisation.
Message numéro 2.
Marcher dans la domination, un appel à porter du fruit. Et comme je vous l'ai dit, dans la première partie de ce message, je vais vous parler de la vision, sinon de l'objectif. Hein. L'objectif, en fait, est un élément important pour porter du fruit. Alléluia. Alors, nous avons vu dans la première partie qu'il était important pour nous de porter du fruit, parce qu'en fait, c'était un principe divin. Du fait que dans tout ce que Dieu crée, il le crée pour un but, et le but de chaque chose qu'il crée a pour objectif de reproduire sa propre espèce. Alléluia. Alors nous allons continuer et nous allons davantage apprendre sur le sujet. Mais j'insiste en disant, on ne peut pas porter du fruit si porter du fruit pour nous n'est pas un objectif. C'est un peu comme on dit, on ne peut pas se marier si on n'a pas envie de se marier. On ne peut pas faire d'enfants si on n'a pas envie de faire des enfants. C'est quand un couple est déterminé à faire des enfants qu'il va utiliser toutes les stratégies possibles pour pouvoir atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Ils pourront voir tous les médecins possibles, ils pourront être soumis à tout. Même si un charlatan vient à les mentir, ils vont obéir. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir un enfant. Le même principe se retrouve aujourd'hui en Christ. Si on n'a pas l'objectif, si on n'a pas la vision de pouvoir porter du fruit, eh bien, on n'aura pas la faculté ou la force nécessaire de pouvoir se battre à porter du fruit. Parce que nous nous rendons compte que porter du fruit, ce n'est pas simplement un mot. Porter du fruit, c'est produire. Nous avons vu que porter du fruit, c'est fabriquer. Porter du fruit, c'est engendrer. Donc, on ne peut pas engendrer, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas amener à l'existence si on n'a pas envie de le faire. Alléluia. Et pour ça, j'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Marc. Marc 11, 12 à 14. Et j'aimerais vraiment que nous lisions ce passage. Et nous allons apprendre... Et nous allons confirmer ce que je vais vous dire. La Bible dit, le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Au verset 13, il est dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il se trouverait quelque chose. Mais s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voilà une autre histoire relative au figuier. La première que nous avons lue, c'était l'histoire d'un propriétaire d'une vigne dans laquelle se trouvait un figuier. Et à chaque fois qu'il avait envie de manger des figues, il venait et le figuier ne donnait pas. Et là, c'est une histoire similaire, mais là, cette fois-ci, c'est Jésus lui-même en personne qui la vit. Donc, il avait faim. C'est sûr qu'après avoir passé du temps à Béthanie, exercé le ministère, il en est sorti sans avoir eu le temps de manger et il a faim. Comme n'importe qui d'entre nous, il a eu faim. Et de loin, il aperçoit un figuier. La Bible dit, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors au verset 14, il prit alors la parole et il lui dit, et là il s'adresse au figuier, que personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voilà une histoire plus ou moins contradictoire. Jésus a faim. De loin, il aperçoit un figuier. Et quand il s'avance, il se rend compte que le figuier n'a pas de figues. Ce qui est logique. Parce que d'après l'histoire, il nous est dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Christ prend quand même sur lui de maudire le figuier. Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il si dur avec un figuier qui n'est même pas la saison des fruits et il exige? Et comme le figuier n'ayant pas donné les fruits, il le maudit. C'est pas logique. Vous savez, quand le figuier pousse, en général, il a de très belles feuilles. Et donc, quand Christ sort de Béthanie et qu'il voit le figuier avec des feuilles, il se dit, il y aura des fruits. Parce que le signe, hein, pour les cultivateurs de figuiers ou les propriétaires de figuiers ou pour tous ceux qui savent comment fonctionne le figuier, la chose qui prouve que le figuier a des fruits, ce sont les feuilles. Quand il n'y a pas de fruits, le figuier n'a vraiment pas de feuilles. Mais quand il est sur le point de donner, ou s'il a déjà donné, en tout cas, il a de très belles feuilles vertes. Donc, quand Jésus sort de Béthanie et qu'il a faim, il ne s'inquiète pas parce que de loin, il aperçoit un figuier qui a des feuilles. Et il se dit, ah, si le figuier a des feuilles, c'est que je vais aller trouver un fruit. Il dit, c'est sûr que je vais manger. Mais quand il arrive, le figuier n'a pas de feuilles. Comment? La logique veut que le figuier, quand il a des feuilles, c'est la preuve qu'il a des fruits. Mais cette fois-ci, le figuier a des feuilles. Non seulement il a des feuilles, c'est-à-dire les feuilles sont venues très longtemps avant la saison, mais en plus, ce n'est pas la saison. Il a quand même des feuilles, mais il ne donne pas de fruits. Il ne peut pas donner de fruits. Et Jésus s'énerve, il dit que personne ne mange plus. Voilà une histoire extraordinaire. Elle est très illustrative. Vous savez, nous, les chrétiens, nous ressemblons à ces figuiers. On nous a plantés, on a des feuilles. On a tous des feuilles. Et les feuilles ici correspondent à nos nombres d'années en Christ, à nos nombres de semaines ou de mois en Christ. En fait, à notre engagement vis-à-vis du Seigneur en disant, je vais travailler pour toi, je veux te servir, je veux t'aimer, je me donne tout entier à toi. Et lorsque Dieu nous voit, il nous voit avec des feuilles. Et pour lui, il se dit, puisqu'il y a des feuilles, il est fort probable que ma brebis est sur le point de pouvoir manifester un certain caractère, manifester certains dons, certaines qualités qui lui seront nécessaires à elle, mais aussi nécessaires à moi. Mais quand Dieu s'avance, il se rend compte qu'on a des feuilles, on est chrétien, on est beau, on est resplendissant, mais on ne donne pas des fruits. C'est vrai que la saison, ce n'est pas la saison des figues. Mais pour Dieu, à partir du moment où on accepte le Seigneur, si on répond à la loi de la reproduction, pour nous, il n'existe pas de saison particulière. À tout moment, dès qu'on a un feuillage, on est susceptible de donner. Certains me diront, non, mais pas quand on est nouveau converti. Je vous dis, même quand on est nouveau converti, en général, on donne le plus quand on est nouveau converti que lorsqu'on est mature. Pourquoi? Parce que plus on grandit, et si on ne fait pas attention à l'enseignement de Christ, on devient des raisonneurs dans la maturité, et il nous est souvent très difficile de porter du fruit. Par contre, quand on est nouveau dans la foi, on a plus de facilité à apporter des fruits, simplement parce qu'il y a des réalités que nous n'avons pas, on est enthousiasmé par la belle vie, donc il nous est facile de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Vous allez vous rendre compte que pour ceux qui sont de commerce facile, c'est-à-dire qui ont la facilité de parler, ils viendront, ils diront, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et même si on n'est pas de commerce facile, on a la facilité de dire aux gens, Jésus t'aime. Donc, tout de suite, on fait office d'évangéliste et on produit un fruit, l'évangélisation. Mais quand on grandit dans notre marche avec le Seigneur, avec trop de maturité ou de la fausse religion chrétienne, alors on commence à raisonner et quand Dieu nous demande d'agir, on n'agit plus. On ne peut plus facilement poser des actes. Parce que notre soi-disant maturité nous amène à regresser. Alors que la maturité nous amène à progresser. Alors, cette histoire nous dit et nous fait comprendre que tant que nous sommes nés de Dieu, nous obéissons à la loi de la reproduction. Tant que nous avons des feuillages, tant que nous avons une existence, que nous sommes capables d'avoir des dons, même si ce ne sont pas forcément des dons spirituels, mais à partir du moment où on a des qualités, on a un potentiel, on a l'obligation de donner. On ne donne pas à Dieu quand on se sent prêt. On donne à Dieu quand lui, il en a besoin. Et c'est souvent là une erreur que nous faisons. On donne à Dieu quand on se sent prêt. Mais la nature veut, en général, avec la corruption du péché, avec la mauvaise façon de raisonner, en général, quelqu'un vous dira toujours, je ne suis pas prêt pour le Seigneur. Et donc, on trouve toujours des justificatifs. Et c'est là l'une des leçons qu'on doit apprendre de cette histoire. Jésus n'a pas maudit le figuier parce qu'il était incapable de produire. Jésus a maudit le figuier parce qu'il a refusé d'obéir à la loi de la reproduction et que le figuier a décidé d'obéir à la loi de la nature au lieu d'obéir à la loi que Dieu lui-même a établie. C'est pourquoi je disais, on veut porter du fruit. C'est un objectif. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'avez pas l'objectif de porter du fruit. Et on porte du fruit quand on sait quel est le fruit qu'on est censé porter. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous de connaître d'où on vient et ce que Dieu attend de nous. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, ce n'est pas un jeu. Et j'ai l'habitude de dire, être chrétien, c'est une responsabilité. On doit s'atteler à découvrir ce que Dieu attend de nous. Mais en attendant que Dieu nous révèle exactement ce qu'il attend de nous, il y a déjà des dons, il y a déjà des aptitudes, il y a déjà des qualités que Dieu nous demande déjà d'utiliser pour pouvoir aider ceux qui sont autour de nous. On s'attend trop, et c'est une autre illustration de ce passage, on attend trop de servir Dieu de façon spirituelle, alors que quelquefois il attend que nous le servions de façon naturelle. Trop souvent on se dit, je ne suis pas apte, peut-être parce qu'on ne prie pas en langue, peut-être parce qu'on a l'impression de ne pas être capable de jeûner 4, 5, 10 jours. Tout le monde ne peut pas jeûner, même avec 50 ans d'existence en Christ, il n'est pas dit que vous êtes capable de faire un jeûne de 20 jours. C'est une aptitude que Dieu donne à certains. Et vous devez le comprendre. Tout le monde n'a pas la capacité de jeûner 40 jours. Je vous l'assure. Tout le monde n'a pas la capacité de jeûner 20 jours. Si vous avez cette grâce, alléluia, faites-en, utilisez-le pour pouvoir servir le Seigneur. Mais si vous ne l'avez pas et que vous ne réalisez pas que vous ne l'avez pas, donc vous n'allez jamais porter du fruit. Pourquoi? Parce que la religion dit, il faut faire un jeûne de temps. Il faut faire un jeûne de temps. Et comme disait quelqu'un, au lieu de devenir des personnes qui jeûnent, on devient des jeûneurs. Pas des jeûneurs, mais des jeûneurs. Histoire de rigoler. Vous comprenez? Tout le monde n'a pas la capacité de rire, mais il y en a qui en ont. Donc, un sourire, ça peut sauver. Servir Dieu ou porter du fruit n'est pas toujours si extraordinaire. Si vous avez des mains et des pieds, en général, vous savez quelle est la chose pour laquelle Dieu vous appelle. Et j'ai l'habitude de le dire ici, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? C'est à cela que vous saurez votre vocation. Ou encore, si vous n'arrivez pas à déceler ce que vous aimez le plus faire, ce qui vous énerve le plus. C'est là où se trouve votre vocation. Parce que Dieu veut vous dire, c'est à toi que j'ai donné la capacité de régler ce problème. Vous savez, j'étais avec quelqu'un tout à l'heure et je lui disais, de ma tendre enfance, j'ai été marquée par ma famille maternelle, parce que dans ma famille maternelle, évidemment, mon grand-père a fait des bêtises et il s'est avéré qu'il y avait une malédiction qui plane sur toute la gent féminine de sa descendance. En fait, c'est une forme de malédiction perpétuelle, mais qui n'attaque que la gent féminine. Alors, l'une des parties de cette malédiction, c'est que les femmes ne réussissent pas en mariage. Et très jeune, j'ai été marquée par les séparations, les bastonnades, les tromperies. Je les ai vécues, comme on dit, en live. Et ça m'a tellement marquée. Et j'ai dit dans mon enfance, à l'époque, je ne savais pas que Dieu existait pour de vrai. Et je lui ai dit, Dieu, jamais. Je me rappelle, j'avais 7 ans. Je lui ai dit, jamais je ne veux me marier pour divorcer. Quitte à aller à l'école, aller dans une université spécialisée pour être une bonne épouse, une bonne mère, je suis prête à payer ce prix, mais je refuse de vivre ce que je vois. J'ai été trop marquée. Ça m'a trop fait mal. Et de me rendre compte que c'est toute une famille qui n'a que 2 garçons, je crois, et combien de filles, peut-être 5 ou 6 ou 7. Toutes les 7, rien ne marche. J'ai dit non. Malédiction ou pas malédiction, je m'en fous, mais dans cette affaire, je refuse de vivre ça. Pire encore, dans ma famille paternelle, là-bas, je n'ose même pas. Dans ma famille maternelle, encore, on fait semblant. On arrive quand même à mettre l'anneau. De l'autre côté, on ne met même pas l'anneau. C'est-à-dire, même dans la même maison, ça ne dure pas. Dire 2 personnes, comme on dit, union libre, ça ne fonctionne pas. Donc, comme le côté maternel, on arrive quand même à faire la petite fête, là. Donc, ce n'est pas la peine. Je suis dans un cercle miné. Et quand j'accepte Christ, je me dis, Dieu dit qu'on peut réussir. Il faut que je réussisse. J'ai passé mon temps à pleurer. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas rater. Et je me suis dit, je vais d'abord me consacrer à toi. Je vais finir l'école. Et après, je m'occupe de cette affaire. Parce qu'il faut que je réussisse. Et Dieu me parlant par rapport au ministère, m'a dit, ma fille, tout ça là, ce sont tes projets. Mais comme tu désires comprendre, je vais t'enseigner. Et si tu maîtrises, je vais faire de toi un don pour les couples. J'ai dit merci, c'est ce que je veux. Mais mon objectif, ce n'est pas d'abord d'être le don. Mon objectif, c'est d'avoir moi-même réussi. Alors j'ai commencé à pleurer et à lire. Et à chaque fois que je lisais les Écritures, pendant que les autres avaient des révélations sur le Saint-Esprit, chaque lecture que j'avais, Dieu me disait par rapport au couple, voilà, j'ai dit, mais attends, mais je dois aussi lire pour comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Il me dit, je vais t'enseigner ça d'une autre façon. Et chaque fois que je lis la Bible, il m'enseigne sur le couple. Chaque fois qu'il me parle, il m'enseigne sur la vie courante avec lui. J'ai dit, bon d'accord, là j'ai compris. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mais Dieu ne m'aurait pas dit ça si régler ce problème n'était pas pour moi un objectif. Ça a l'air d'être bête, mais cet objectif-là, c'est le fruit que Dieu attend maintenant de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc mon souci de voir ma famille dans des problèmes conjugaux constants m'a amené à découvrir que c'est la vocation. Parce que la seule façon par laquelle Dieu nous avertit ou encore nous annonce notre vocation, c'est soit par ce qu'on aime le plus, soit par ce qu'on déteste le plus. Donc si vous détestez la maltraitance, sachez que c'est là où Dieu vous appelle. Vous pourrez aller à gauche, à droite, vous allez régler le problème de la maltraitance. D'une manière ou d'une autre. Et remarquez bien, si vous êtes très attentionné, tous les gens qui viennent vers vous, leurs problèmes sont toujours relatifs à la chose qui vous énerve. À telle enceinte que vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là? Dieu ne sait pas que ça m'énerve. Non, il ne faut pas dire Dieu ne sait pas que ça m'énerve. Ça t'énerve parce que Dieu a mis en toi la capacité de régler ce problème. Alors à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand tu prends conscience de cette vérité, tu réalises que non, ça c'est ma vocation. Maintenant, entre la connaissance de la vocation et la vocation proprement dite, il y a toujours une période de formation. Et quand Dieu a fini de te former, sache que lorsque Dieu te dit « Je veux que tu portes du fruit », ça veut dire que la vocation qui est la tienne, la chose pour laquelle tu existes, là, la raison pour laquelle je t'ai suscité, c'est ça. Mais pour moi, le fruit qui demeure, c'est dans cela. C'est ta vocation, c'est-à-dire ta capacité à amener la pensée, l'objectif que j'ai mis dans ta vie à matérialisation. Là, à ce moment précis, le fruit, tu l'as. Mais ce fruit demeure. Pourquoi? Parce qu'il aura un impact. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, asseyons-nous et réfléchissons sur notre vie. Tous les jours, tu as des enfants qui viennent se plaindre chez toi. J'ai faim, j'ai ceci. Même quand tu n'as pas, il y a toujours quelqu'un. Tu commences à dire, mais c'est quoi aussi? Moi, je n'ai pas d'argent, comment Dieu m'envoie et tout, et tout, et tout. Maman ne parle plus beaucoup. Papa n'écrit plus. Regarde bien, chaque fois que Dieu t'envoie quelqu'un, regarde toujours quel est le sujet autour duquel vous passez du temps. Alors là, tu commences à dire, ah bon, donc c'est ça. Si ton souci, c'est d'être la mère la plus exemplaire, maman, il y a une vocation dedans. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique. Ça veut dire que c'est peut-être une des vocations. Mais sache que Dieu t'a donné quelque chose auprès des enfants. Tu montes, tu descends. Dieu t'enverra. Tant que tu n'accepteras pas, Dieu t'enverra toujours les mêmes petites tailles là, de personnes là, souvent que je dis ce sont mes amis parce que j'en ai plein. Toujours des petits bouts. Tantine, tantine. À un moment donné, tu as envie de les refouler. Mais plus tu les refoules, plus ils sont nombreux. Et quand tu arrêtes de les refouler, ils viennent dans le raisonnable. Et quand tu refuses, ils viennent de plus en plus nombreux. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Plus je chasse les gens-là, plus ils arrivent. Non, Dieu est en train de te dire, ma fille, mon fils, voilà l'endroit où je t'attends pour porter du fruit. Porter du fruit, ce n'est pas au hasard. On ne porte pas du fruit au hasard. Et on a vu dans les Écritures que quand Dieu a créé la terre, il a dit, terre, tu as pour vocation de reproduire une espèce vivante d'animal. Chacun d'entre nous, nous avons été suscités pour un objectif particulier. Par exemple, pour confort, peut-être elle chantait trop quand elle était petite. Peut-être on la talochait beaucoup et on disait, ah, toi aussi tu nous fatigues. Mais comme on n'est jamais sensible à la façon dont Dieu fait les choses, on devait sûrement lui dire, ah, tu nous fatigues. Elle commençait à exprimer la vocation. Maintenant, en grandissant, quand elle a pris conscience qu'elle pouvait choisir, elle a dit, je jure que je chante. Parce que quand je chante, je me sens bien. Et quand je chante, je trouve que les gens sont heureux. Alors, elle a compris. Maintenant, le tout n'est pas de connaître. Maintenant, là où Dieu attend qu'on forte, c'est que dans sa vocation de chante, il y a une dimension que Dieu a prévue pour elle. Elle doit non seulement la découvrir et devenir excellente. Quand elle deviendra excellente, Dieu dira, oui, pour moi, tu as porté un fruit et un fruit qui demeure.
Parce que si Dieu nous disait choisis, c'est pas évident. Mais Dieu est stratège. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en nous la vocation, c'est-à-dire l'objectif qui devient quelque chose de constant, qui remonte, de telle façon à ce que tant qu'on n'a pas atteint ou quand on n'a pas fait la chose qui est au-dedans de nous, cette aspiration profonde qui est au-dedans de nous depuis notre enfance, je veux faire, tant que ce n'est pas accompli, on se sent mal parce qu'on est né pour ça. Et quand maintenant on entre dans cette chose, pour que ce ne soit pas une difficulté ou un fardeau, Dieu a mis ça comme étant une vocation. Donc le plaisir que nous aurons à faire va nous amener plus tard à dominer sur ce qu'il y a à dominer, à se séparer de ce qu'il faut se séparer, parce qu'on veut atteindre cet objectif. Et c'est ça là que Dieu appelle porter du fruit qui demeure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne peux rien faire pour le Seigneur. Par exemple, regardez Joël, il est là derrière, moi je ne m'y connais pas en instrument, hein. Je ne sais pas si c'est le piano, si c'est le synthétiseur, si c'est quoi. En tout cas derrière, c'est le synthétiseur. Pour nous qui sommes profanes, on va dire, bon, c'est ça, il joue seulement. Mais pour Dieu, il faut qu'ils connaissent le dessein de Dieu derrière le synthétiseur. Qu'est-ce qui se cache derrière le synthétiseur? Quand il découvrira ce qui se cache derrière le synthétiseur, alors porter du fruit deviendra un objectif. Et quand il va commencer à faire de cela sa vocation, qui est déjà un objectif interne, alors il portera le fruit qu'il faut. Mais si aujourd'hui on a des difficultés à porter du fruit, c'est parce qu'on a fait la différence entre la vocation et le fruit. Alors qu'en fait, l'excellence de la vocation est le fruit qui doit être atteint. On a trop limité le fruit à des fruits dignes de la repentance ou quelque chose comme ça. Et pour nous les chrétiens, assez religieux, on pense que si on était méchant, on ne devient pas plus méchant, mais encore que là, ce n'est pas vraiment qu'on a ôté la méchanceté, mais on a limité les fruits à des actes. Par contre, le fruit est une œuvre. Il y a nuance. Il y a même une très grande différence. Et ça, on va le voir. Pour nous, porter des fruits, c'est poser des actes. Alors que pour Dieu, porter du fruit, c'est concevoir une œuvre. Nuance. C'est pourquoi je dis que le fruit, c'est la conséquence d'une vocation. Est-ce que ça va? J'ai décidé aussi d'être très lente pour mieux expliquer. Même si on ne finit pas, on a tout le temps. Là, on réalise un autre principe, si ce n'est le deuxième principe de cet exposé, c'est que le fruit n'est pas un choix. Le fruit est une obligation. Et notre vie, on ne s'amuse pas avec, parce que notre vie a un objectif, elle incarne un objectif. Et donc, on ne peut pas s'amuser à faire de notre vie ce qu'on veut. On ne peut pas. Je vis au jour le jour. Je me marie pour me marier, je fais des enfants pour me faire des enfants, je travaille pour travailler. Non! Et c'est pourquoi on ne réussit pas et c'est pourquoi on est inutile. Parce que même le choix d'un emploi est fonction de la vocation. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une telle dimension, c'est-à-dire quand on est bête à l'école, excusez-moi l'expression, ou quand l'école n'est pas faite pour nous, comme l'expriment d'autres personnes, il n'y a pas de problème, on a besoin d'argent, on devient militaire. Point barre. Ah, battons-nous, on va le mettre chez les flics. Mais vous n'avez rien compris. Si la vocation n'est pas d'être flic, voilà un enfant qui ne progressera jamais parce qu'il ne se battra pas pour devenir meilleur. Donc, il ne fera pas un travail dans son caractère. Il ne fera pas un travail dans sa vie. Il vivra au jour le jour pourvu que j'ai de l'argent et que je donne à manger. Et quand tout va mal, il va passer son temps à bastonner ou à shooter sa femme ou à s'énerver contre tout le monde. Pourquoi? Parce que sa vie n'a pas d'évolution. Sa vie n'a pas de progression. Il n'y a pas de plan de vie et d'objectif de vie. Et quand il voit que lui tourne en rond et que ceux qui sont venus après lui progressent, il va dire, je suis maudit. Non! C'est pas que tu es maudit, tu n'es pas dans ton lieu de prédilection. Tu n'es pas dans le lieu où Dieu a prévu que tu produirais du fruit. Et ceux qui produisent du fruit, c'est-à-dire ceux qui progressent, ce sont ceux pour qui Dieu a prévu qu'ils devaient vivre, ils devaient être flics. Bon, entre parenthèses, ceux qui progressent par des voies autres, c'est autre chose. Mais je vous parle dans un contexte naturel. On ne progresse, On ne prospère que dans ce qui est à nous. On ne porte du fruit. On est valorisé. On est admiré que dans ce qui est à nous, pas en dehors. Si tu t'es marié parce que les parents t'ont dit de te marier, tu vas faire à manger, c'est vrai. Tu assumeras ton rôle conjugal, c'est vrai. Mais tu ne seras jamais épanoui. Tu auras des instants de bonheur. Non, je ne dirais même pas de bonheur. Tu auras des instants de joie. Pas de bonheur, parce que le bonheur, c'est un tout. Tu auras des moments de joie. Où tu pourras un peu rire et dire, « Oh, mais c'est beau, la vie. » Après ça, tu ressombreras dans ta tristesse. Tu ressombreras dans tes pensées. Parce qu'en fait, c'est pas l'homme de ta vie. C'est pas la femme de ta vie. Tu t'es marié par obligation. Donc, même si tu devais te battre, développer un certain type de caractère ou faire telle ou telle chose pour améliorer la relation conjugale, tu n'en auras pas la force parce que tu ne trouveras pas la raison pour laquelle tu vas le faire. Parce que la personne qui est en face de toi ne te dit rien. Par contre, un mariage conçu dans l'amour, on se bat. C'est-à-dire, on dit je refuse de divorcer. C'est là où vous voyez des hommes, des femmes s'humilier, se faire petit devant son partenaire pour dire il faut que les choses changent. Mais celui qui est de l'or et en tout bon africain dira ça c'est quoi? Tu t'humilies pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne qui vous parle n'a pas de mariage heureux. Elle ne sait pas que le bonheur, parce que le bonheur est un fruit. C'est la conséquence de quelque chose. Ce n'est pas un don, c'est un fruit. Alors, pour arriver à être heureux, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Il y a des sacrifices à... Il y a des fois où il faut fermer les yeux. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'être heureux. Mais si on a l'objectif d'être heureux, c'est parce qu'on a aimé. C'est parce qu'on sait pourquoi on est parti avec la personne. C'est parce qu'on sait ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu et ce qu'on sait qu'on peut obtenir. C'est pourquoi j'insiste en disant, vous ne pouvez pas porter de fruits si le fruit n'est pas pour vous un objectif. Donc, prenons notre vie au sérieux. Même les enfants. Oh, j'ai des enfants, fais les enfants pour le plaisir. Mais vos enfants seront pour vous des bénédictions quand vous saurez pourquoi vous les faites. Parce que c'est à ce moment précis que vous allez donner le meilleur de vous-même. Parce que très souvent, les gens disent, oh, je me sacrifie pour les enfants. C'est un faux sacrifice qui n'est peut-être même pas exigé par Dieu et qui n'est même pas nécessaire pour vos enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, de votre amour pour vos enfants, pris le temps de prier pour eux afin que Dieu vous révèle le véritable besoin de votre enfant. Parce que très souvent, on dit, ah, je me sacrifie pour ces enfants, je dépense l'argent, je leur achète les habits, la nourriture et tout. C'est ça qu'on appelle se sacrifier. Non. Vous faites quelque chose de normal. C'est logique même. Quelquefois, je dis, c'est même pas normal, c'est logique. C'est-à-dire, c'est instinctif. Tout le monde sait que quand on a des gens chez soi, on les fait manger. Parce que c'est quand même grave que tu manges et puis l'autre te regarde. Voilà, il faut aussi avoir un mauvais cœur. Mais donc, c'est logique. Donc, forcément, si tu achètes à manger, comme tes enfants sont là, bon, ils vont manger. Mais cela ne prouve pas que tu es un bon parent. Cela ne prouve pas que tu es une bonne mère. Ce qui prouve que tu es une bonne mère, c'est que tu es capable de déceler, malgré toutes les incompréhensions, quel est le véritable besoin de ton enfant et tu payes le prix pour l'amener là où il doit arriver. Alors, quand ton enfant devient une personne respectable, ton enfant devient le fruit. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que l'épanouissement de ton enfant soit d'abord un objectif. Mais là, en Afrique, on est habitué. Bon, on fait les enfants, ils mangent. Tant qu'ils ont la télévision, le courant et tout, c'est bon. Et puis, quand on a... Tu as combien d'enfants? Oh, ma chère, j'en ai 10. L'autre dit, mais mon Dieu, au moins toi, si l'autre veut te donner à l'argent, il y aura au moins quelqu'un, hein? Voilà le raisonnement. Il y a quand même un qui va penser à toi. Mais Dieu ne les a pas suicidés d'abord pour qu'ils pensent à toi. Dieu a mis entre tes mains des serviteurs de Dieu qui sont appelés à œuvrer. Mais comme l'œuvre à laquelle ils sont appelés dépend en partie de ce que tu as. Donc, puisque cette œuvre dépend en partie de ce que tu as, Dieu les a mis dans ton sein pour que tu leur communiques ta propre espèce qui est nécessaire à l'œuvre à laquelle ils sont appelés. C'est pourquoi en tant que chrétien, on doit prendre le temps de dire, Seigneur, l'enfant que tu me donnes, quel est son avenir? Quel est son objectif? Qu'est-ce que tu attends de lui? Si c'est un homme d'affaires, alors vous allez vous mettre à éduquer cet homme d'affaires différemment d'un pasteur. Parce que vous ne pouvez pas éduquer tous les enfants de la même manière. C'est pourquoi on a des problèmes avec nos enfants. On les met tous comme étant cassoulets dans une même boîte. Et pourtant, dans un cassoulet, vous allez voir des saucisses, hein, longues, vous allez voir des saucisses tranchées, vous allez voir un morceau de là, vous allez voir des haricots. C'est la même boîte, mais il y a quatre éléments différents. Pourtant, c'est la même boîte. C'est tous les quatre éléments là qui font cassoulet. Sans haricots blancs, sans la sauce ni les saucisses, ce n'est pas un cassoulet. On va dire c'est haricot à la tomate. C'est ça. Et c'est le même principe. Ma famille est un fruit. Ça veut dire que papa et maman, vous devez être capables de distinguer chacun de vos enfants. Si Dieu vous a parlé concernant un enfant, Dieu vous dit, j'ai un homme d'affaires. Dieu dit, parmi tes enfants là, il y a un homme d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois apprendre à ton enfant ce qu'on appelle gérer l'argent. Tu vas l'apprendre à tout le monde. Mais tu vas t'apesantir beaucoup plus sur celui qui est appelé à faire les affaires. Parce que tu en connais le destin. Et donc, puisque le destin, en tant que parent, devient un objectif pour toi, jusqu'à ce que Dieu le retire entre tes mains, alors tu vas travailler. Si Dieu dit, c'est un serviteur de Dieu, dis, mon petit, je vais t'apprendre ce que c'est que servir Dieu. Alors, quand vous parlez le plus de temps avec celui qui est appelé à servir Dieu à temps plein, alors vous lui parlez de l'évangile, vous lui parlez des difficultés, vous l'amenez à prendre conscience et vous l'orientez. Cette façon de parler, vous allez le dire à tout le monde. Mais il y aura une spécificité sur laquelle vous allez vous appuyer pour celui qui est appelé à temps plein. L'autre, maintenant, c'est un intello. Tu dis, ah, l'intello, lui, c'est l'école. Mais l'école, on sait qu'il y a une influence négative des collègues. Il y a aujourd'hui le système de recrutement à la jeune chambre économique qui est là aussi. Dans l'intellectualisme, il y a l'orgueil qui poursuit les personnes. Il y a un problème d'argent, donc de pouvoir. Alors quand vous avez déjà ressorti les éléments qui peuvent être des obstacles à l'épanouissement de votre enfant, vous commencez à enseigner sur ces points. Vous montrez le bien fondé et vous montrez le côté négatif. Vous le mettez face à la vérité. Et quand il grandira avec ça. Mais ce que vous lui avez montré, ça sort d'où? De vous. Ça veut dire que vous avez le don et le talent. Chaque enfant qui est là, en l'éduquant, vous allez découvrir vos propres dons et talents. Et ça, vous allez comprendre, j'ai compris pourquoi Dieu les a mis entre mes mains. Reproduire la même espèce. Quand ces enfants deviennent matures et des personnes responsables, quand on dit tu as réussi, ça veut dire en d'autres termes pour Dieu, tu as porté du fruit. Parce que lorsqu'on lit Jean 15, la Bible dit que Jésus dit que nous sommes appelés à porter du fruit et du fruit qui demeure. Et elle dit, si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père sera glorifié. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Pourquoi? Parce que comme Dieu doit être glorifié, et comme nous l'avons vu en première partie, que tout ce que Dieu crée, il le fait pour lui-même, alors, puisque Dieu veut être glorifié, lorsque vous allez rentrer dans le sens de porter du fruit, quand vous allez l'invoquer, Dieu descendra. Donc, si beaucoup de prières ne sont pas exaucées, resituez-vous, parce que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Porter du fruit. Si on n'a pas la vision, si on n'a pas pour objectif porter du fruit, tout ce qu'on pourra vous dire ne servira à rien. Alléluia. Donc, vous comprenez? On doit porter du fruit. Asseyons-nous un tout petit peu et disons, il est temps que je recadre ma vie. Aller à gauche et à droite. On n'est plus à l'air d'aller à gauche et à droite. On est à l'air où on fonce. C'est celui qui obéit au principe de Dieu qui voit la main de Dieu. Celui qui n'obéit pas ne verra pas la main de Dieu. Et vous voyez bien que lorsque Dieu s'adresse à l'espèce humaine, il ne s'adresse pas aux chrétiens. Il dit, faisons l'homme. Il n'a pas dit, faisons les chrétiens. Il dit, faisons l'homme. Ça veut dire, en d'autres termes, que tout homme qui obéit au principe réussit. C'est pourquoi vous voyez que, chrétien ou pas chrétien, celui qui obéit au principe prospère. Ce n'est pas une affaire de chrétienté, c'est une affaire de principe. Dieu a établi, il dit, tout être humain est appelé à prospérer, à dominer. Celui qui obéit au principe il va s'en sortir. Celui qui n'obéit pas s'en sortir. C'est ce que la Bible essaye d'illustrer en disant, Dieu fait tomber la pluie sur le bon comme sur les méchants. Mais c'est l'objectif que nous avons qui va déterminer le fruit de notre vie. On ne peut pas vivre au hasard.
Pour la suite de ce message, veuillez insérer le CD numéro 2.